maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse. Maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de Julien Sels, qui est un auteur, éditeur foudroyant, puisqu'il se balade à travers toute l'Europe avec ses jeux de société. Bonjour Julien.
Bonjour, et c'est une excellente description de ma personnalité pour commencer cette conversation.
Et bien voilà, donc on va continuer alors sur cette lancée-là. Donc Julien, tu es à Bruxelles pour l'instant pour présenter un jeu qui apparemment a été décliné dans plein de versions différentes, qui s'appelle United Square. On va peut-être juste commencer par la description exacte du jeu, comme ça on sait de quoi on parle.
Alors, après 6 mois d'expérience, j'essaye de trouver les mots justes pour pouvoir parler assez simplement du jeu. Donc, le premier élément que je dirais, c'est que le jeu est plus simple que le jeu de dames et plus intense que le jeu d'échecs.
Voilà. C'est déjà très ambitieux.
Alors, je mets la barre assez haut, en effet, et derrière, il faut que je justifie ce que je dis. Plus simple que le jeu de dames, parce que c'est un jeu sur la base de 4 couleurs références classiques, qui sont le jaune, le bleu, le vert et le rouge. Et le principe, c'est de faire des carrés de même couleur. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté dans la compréhension des règles du jeu. D'ailleurs, le jeu s'adresse à des enfants à partir de 6 ans. Donc ça, c'est la partie plus simple que le jeu de dames.
Donc là, ça veut dire qu'on est sur un jeu abstrait. On a des tuiles en carton qui vont se placer sur la table. Et donc il y a une recomposition de couleurs qui va se faire. Maintenant, parlons des échecs.
Alors, la référence aux échecs, c'est qu'il y a un principe mathématique qui m'a permis de constituer le jeu et qui fait qu'on a des subtilités dans les différentes stratégies. L'assemblage des couleurs à l'intérieur de ces tuiles, qui sont en fait un carré partagé par 2 diagonales, on a 4 zones et on compose les couleurs à l'intérieur de ces 4 zones. Si on compose ces couleurs en alternant et en permutant les couleurs, on peut avoir 6 combinaisons différentes. Si on met ces 6 combinaisons différentes sur un cube, sur les 6 faces d'un même cube, on obtient un cube magique où toutes les arêtes, tous les côtés adjacents sont de même couleur. Ça, c'est le principe mathématique. C'est le cube. C'est voilà, quelque chose qui va être une référence dans la vie du jeu. Alors, pourquoi les échecs ? Parce qu'on joue sur un échiquier. On joue soit sur un échiquier 5 par 5, c'est-à-dire 25 cases, soit 7 par 7, 49 cases. Lorsqu'on joue, on peut jouer à 2, 3 ou 4 joueurs, ou seul. Lorsqu'on joue à 2, dans une configuration de jeu d'échecs, on joue sur un échiquier qui fait 25 cases. Donc c'est un petit échiquier, les parties durent 10 minutes. Et les parties sont extrêmement intenses, parce qu'il y a une analyse combinatoire qui est considérable, un peu comme le jeu de Go. Donc on ne refait jamais 2 fois la même partie. Et donc je compare ça de façon assez ludique. Les échecs, c'est un marathon. Le jeu United Square, c'est un 100 mètres. C'est-à-dire que c'est 10 minutes extrêmement intenses intellectuellement. Et pourquoi ? Et quel est l'intérêt ? C'est de pouvoir, je dirais, séduire l'ensemble du profil des joueurs. On peut jouer à partir de 6 ans parce que les règles sont simples et ça peut s'adresser aux plus grands joueurs d'échecs qui vont trouver une excitation, une intensité dans le jeu, parce que ce sont des parties très rapides qui durent 10 minutes où on n'a pas le droit à l'erreur.
Donc, c'est-à-dire que c'est un jeu abstrait, familial, parce que quel que soit l'âge, on va y trouver son sou. Mais on l'a dit, la mécanique du jeu, c'est en fait de recomposer des couleurs, mais le but du jeu est réel. Donc.
Le but du jeu, c'est de faire le plus grand nombre de carrés de sa couleur ou de ses couleurs que l'on joue à 2, à 3 ou à 4 joueurs. On choisit 1 ou 2 couleurs. Donc, en connectant les tuiles les unes aux autres, on forme un carré uni. Voilà, d'où le nom United Square. Donc c'est le principe du jeu, on est toujours obligé de former des carrés de même couleur. On a une petite astuce qui permet de bloquer les couleurs de l'adversaire. Lorsqu'on met 2 couleurs identiques sur les côtés d'une même case, on bloque les couleurs de l'adversaire. Cette notion-là, c'est celle qui va permettre de construire des tactiques, des stratégies, de travailler en fonction des territoires de jeu. À la fin de la partie s'arrête, on joue l'un après l'autre. Quand un joueur ne peut plus jouer, il passe son tour. Quand les 2 ne peuvent plus jouer, la partie s'arrête. Et à ce moment-là, on compte le nombre de carrés de ça ou de ces couleurs. C'est celui qui a le plus grand nombre qui gagne.
Ok, donc United Square est né il y a combien de temps maintenant ?
United Square est né il y a un petit peu plus de 6 mois et a été lancé à l'occasion du Festival International des Jeux de Cannes.
En février 2012 ?
En février 2012, tout à fait, par un concours de circonstances. Suite à un salon professionnel autour du jeu, on me parle du Festival International de Cannes, que je ne connaissais pas. J'appelle la responsable, on me dit qu'évidemment, il n'y a plus de place. J'insiste un petit peu et sympathiquement, au cours de la conversation, la responsable du salon me dit très gentiment qu'une personne vient de se désister. Je dis, est-ce qu'il y a un petit espace de 9 mètres carrés pour que je puisse m'installer et présenter mon jeu, parce que je ne peux pas faire beaucoup plus. Et puis finalement, concours de circonstances, je me suis retrouvé sur un espace un petit peu plus grand que 9 mètres carrés, où j'ai pu disposer mes tables de jeu. Et ces 4 jours de salon étaient pour moi absolument essentiels, révélateur de tout l'intérêt, puisque j'ai pu confronter le jeu à un public. Puisque
c'était la première fois que tu présentais le jeu à un public ?
C'était la première fois, j'étais limité à présenter le jeu à moi-même pendant les mois qui ont précédé, c'était assez restreint comme analyse. Ça donne une expérience unique, extraordinaire, magique, où là on est à nu complètement, puisqu'on présente, on présente sa création, et on a face à soi des gens qui n'ont aucun parti pris. Donc ce sont des familles, des seniors, des enfants, des retraités, et ils viennent s'asseoir à la table, ils découvrent le jeu, ils jugent le jeu, ils critiquent le jeu, ils s'amusent avec le jeu.
Donc ça veut dire que même si au niveau du milieu ludique on peut se dire bon, lancer un jeu abstrait sur le marché c'est quand même peut-être un peu risqué, ton sentiment c'est que finalement l'idée même abstraite fonctionne.
C'est délicat, je pense que comme tout créatif de toute façon, là c'est plus le créatif que l'auteur de jeux abstraits puisque c'est mon premier jeu abstrait, mais j'aurais tendance à dire c'est quelque chose de très personnel, une aventure, on se lance dans l'aventure sans se poser ces questions là parfois ça marche, parfois ça marche pas. J'ai eu d'autres expériences précédemment qui m'ont permis de me donner la conviction que ça pouvait réussir, et ça m'a permis de rencontrer au cours de ces 4 jours des professionnels qui auront un impact dans la vie du jeu par la suite.
Tu es dans un roadshow international, hein, soyons très clairs. Où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver, où est-ce qu'on pourrait rencontrer le jeu United Square dans les mois qui suivent ?
Alors, pour être extrêmement précis, à court terme, au salon Paris et Ludique, qui aura lieu donc à Paris, comme son nom l'indique, du 23 au 24 juin sur un week-end. Et on organisera un tournoi. Qui va se dérouler donc, comme les échecs, avec des plateaux et des manches assez intenses. Et puis par la suite, là je maîtrise mal l'emploi du temps sur les 6 mois à venir, mais je pense qu'à partir de septembre, mon éditeur préféré en parlera mieux que moi, il y a une conférence de presse sur le lancement du jeu en Belgique. Je suis en train de finaliser avec un distributeur en France et l'objectif c'est d'être présent dans un maximum de lieux de vente pour les fêtes de fin d'année, évidemment à Noël.
Les distributeurs identifiés à l'heure actuelle, donc en Belgique c'est qui et en France c'est qui?
Alors en Belgique c'est CLD, Culture Ludique Divertissement. Qui est un nouvel acteur dans le jeu traditionnel, très implanté dans le jeu vidéo et qui était pris de passion, pas par mon jeu, j'aurais pas la prétention de dire ça.
Si, mais si.
Alors peut-être, parce que les dirigeants ont découvert le jeu sur iPhone, iPad et ont été séduits. Mais,
voilà. Et en France ?
Et alors en France, les contacts les plus sérieux sont avec BlackRock.
Bien, donc si on ne sait pas où te retrouver, en tout cas en live, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ?
On peut me retrouver sur Internet sur le site www.united-square.com ou sinon plus simplement dans Google, on tape United Square, on se retrouve soit sur un grand magasin à Singapour, soit sur le jeu. Voilà. Alors c'est pas le magasin Singapour, c'est le jeu.
Il n'y a plus qu'à aller à Singapour.
Et on ira, j'espère, fêter United Square pour le lancement du cube asiatique à Singapour, dans ce grand magasin où il y a d'ailleurs tout un environnement ludique autour du jeu.
Je vois sur la table une version plateau, il y a une version avec une petite boîte dans laquelle se trouvent les tuiles, et puis je vois un cube. Donc ça veut dire que nous sommes au mois de juin, le jeu est né en décembre 2011, donc ça n'arrête pas de fourmiller.
Oui, alors heureusement j'ai des garde-fous autour de moi qui essayent de me retenir dans mon développement créatif permanent, puisque c'est un petit peu l'oxygène des créateurs de développer ses inspirations. Je pense qu'il est arrivé à maturité, ces 6 mois et ces rencontres avec des professionnels du milieu du jeu m'ont permis de comprendre quels étaient les codes, quelles étaient les attentes, quels étaient les besoins. Mon expérience aussi du monde marketing événementiel m'ont permis d'arriver à maturité dans le produit fini que je voulais. Et qui s'exprime tout naturellement par ce cube qui est à la fois le principe mathématique du jeu, qui est esthétique, c'est un cube qu'on peut avoir sur son bureau sans même l'ouvrir, qui est d'une taille raisonnable, hein, c'est un gros dé, Et sa magie, bah, c'est, je laisse les gens évidemment le découvrir. Hein. Sa magie, c'est quand on ouvre le cube, bah, on se retrouve voilà, confronté à une multitude de formules de jeux possibles. Et bah, j'espère que le lancement en septembre du cube et la campagne va tourner autour de cette phrase, les petits cubes déboulent. Voilà, c'est un petit jeu de mots, évidemment, parce que ça a la forme d'une dée. C'est cubique, donc ça ne roule pas. Mais les petits cubes vont débouler. J'espère que chacun pourra prendre du plaisir à découvrir ce jeu abstrait et qui a réussi à convaincre beaucoup de passionnés de jeux thématiques qui ne pensaient pas, peut-être dans leur vie, qu'ils seraient séduits par un jeu abstrait.
Ok, mais en plus du cube, qui est en fait maintenant la nouvelle présentation du jeu, puisque le cube, comme tu le dis, c'est un gros dé qui s'ouvre dans lequel on retrouve les tuiles. Il y a en plus une version sur iPad, sur iPhone, sur Android, donc ça veut dire qu'on met les doigts partout.
Tout à fait, on les met sur le clavier, on les met sur l'écran tactile, on les met sur les tuiles. On s'allie en effet tout cet univers de façon ludique, mais voilà, l'intérêt était encore une fois de montrer toutes les différentes facettes du jeu. Si on joue avec les tuiles, il y a une dimension social, d'échange, ludique, du jeu de société traditionnel qui est essentiel pour moi, mais on vit dans son temps, donc la dimension numérique était absolument pas dissociable et elle apporte des spécificités particulières, elle est complémentaire, c'est-à-dire que sur les versions numériques, iPhone, iPad, c'est gratuit, donc on peut découvrir le jeu, encore une fois, c'est très accessible, le jeu est présent. Et je remercie l'équipe de Board Game Arena qui a été séduite elle-même par le jeu. Et ça a été un tournant considérable pour moi, parce que c'est un jeu qui se joue à plusieurs. Et Board Game Arena a permis de faire découvrir le jeu et m'a permis à moi de jouer contre des joueurs du monde entier. Ça, c'est une étape considérable, inestimable et une addiction permanente. J'ai aussi développé des versions différentes qu'on ne peut pas développer sur du jeu traditionnel parce que c'est uniquement la dimension numérique qui le permet, du jeu où on a des petites pastilles qui vont changer la couleur des carrés, qui est très simple, mais qui rajoute une nouvelle strate, une nouvelle dimension stratégique qui est très amusante. Voilà, le jeu traditionnel a ses variantes, le jeu numérique a ses variantes. L'idée, c'est d'essayer de contenter, de convenir en tout cas au plus grand nombre de joueurs possible.
Alors justement, on vient de passer à travers les différentes représentations du jeu United Square. On a dit, c'est ton idée, tu es l'auto-éditeur en fait de ce jeu-là. J'ai envie de te poser la question, pourquoi est-ce que tu n'as pas été voir des éditeurs avec ton jeu pour essayer de le faire éditer? D'où est venue cette volonté de vouloir prendre d'une certaine manière le risque d'avoir les doigts sur un iPad, sur un iPhone, sur des tuiles en carton, sur des cubes et sur toutes ces idées-là?
Très simplement, parce que je me définis comme un concept designer marginal. J'ai fait multitude de métiers, de déménageur à videur d'une parfumerie jusqu'à chef d'entreprise. Donc voilà, j'ai un panel, une expérience qui me permet d'avoir vu énormément de choses dans ma vie, puisque j'ai un âge un petit peu avancé. J'invite tous les quadras à découvrir le jeu de ma génération.
Les quadras, ceux qui ont quatre côtés.
Exactement, hein, tout tourne autour du carré, on a bien compris.
Attend la version quinquée avec impatience.
C'est la quadrature, alors la version hexagonale va être plus compliquée à définir, mais je vais m'y atteler. Je fais tout seul parce que quand on est un auteur créatif, en tout cas c'est ma définition, je suis devant mon ordinateur, dans ma petite chambre, je crée et j'ai envie d'aller au bout de chaque définition et métier autour du jeu pour maîtriser mon bébé. Voilà. Ensuite j'ai besoin et je suis énormément à l'écoute de l'expérience de chaque profession, de chaque métier, mais j'avais vraiment envie de maîtriser voilà, tous ces éléments parce que j'avais un sentiment très exact sur la finalité du produit. Je savais très bien toutes ces évolutions possibles parce qu'on connaît le processus de création d'une idée à un produit fini. On sait que tout ça évolue dans des directions qu'on n'avait pas prévues. Et donc voilà, j'avais envie de maîtriser toutes ces étapes, de m'y intéresser, et puis j'ai eu le temps et évidemment la possibilité de le faire.
Donc voilà, je veux dire, c'est ton processus créatif d'aller au bout de chaque étape. Si le jeu grandit en renommée, ce qu'on te souhaite évidemment, ça veut dire que voilà. Donc si le jeu grandit effectivement par rapport à un prototype que j'ai sous les yeux et qui ressemble furieusement à un Rubik's Cube, ça veut dire que tu vas pas pouvoir tout faire tout seul sur le moyen terme normalement.
Non, alors en tant qu'un jeune père de famille, donc j'ai tout à fait la maîtrise de l'éducation, l'accompagnement, que ce soit d'un jeu ou des enfants, c'est-à-dire qu'on le maîtrise au départ, hein, jusqu'à qu'ensuite on ait les bons acteurs qui prennent le relais. Voilà, mais une fois qu'on a bien maîtrisé toute cette dimension-là, on est plus à même de pouvoir maîtriser son développement parce qu'on sait où on va et la collaboration fonctionne idéalement avec les gens dont c'est le métier. Voilà, donc en effet, le prototype est très très séduisant, le prototype du Rubik's Cube, puisqu'il reprend le concept mathématique, l'habillage des couleurs, mais il a des spécificités qui sont très originales par rapport à ce que est le Rubik's Cube depuis 25 ans. Et donc, il y a toute une catégorie d'algorithmes à recréer, à recomposer, qui excite beaucoup les passionnés de Rubik's Cube. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va se faire à l'avenir.
Ça veut dire que ça, c'est vraiment un prototype ou ça a déjà été engagé avec une licence Rubik's ou je ne sais quoi ?
Non, alors c'est un prototype qui a été testé très récemment auprès de passionnés du Rubik's Cube et de joueurs lambda. Ils ont été extrêmement séduits, ils voulaient acheter le jeu et le prototype, ce qui était évidemment exclu parce que je n'en ai qu'un et j'ai mis beaucoup de temps pour le faire. Et donc maintenant, la démarche logique, en effet, va être de contacter... dans un premier temps, la société qui exploite le Rubik's Cube et de voir si on peut réaliser un partenariat pour faire vivre à la fois pour faire vivre le cube. Voilà. Exactement. Le jeu a cette particularité-là qu'il est basé sur des couleurs universelles et qui s'adresse à un public international. Voilà. Il n'a pas de frontières. C'est une dimension sociale qui m'est chère. À la fois le prix le rendre accessible et que ça puisse être un échange entre toutes les populations, c'est très ambitieux, mais
c'est bien, c'est bien. Le jeu, comme il est là, donc la petite boîte avec les tuiles, il y a eu un certain nombre de boîtes qui a été tirée depuis février. J'imagine qu'il y a eu des ventes. Quel est le bilan que tu fais à l'heure actuelle, si c'est pas trop indiscret ?
Non, il y a aucune indiscrétion, parce que je ne cache rien. Donc j'ai vendu 150 jeux au Festival de Cannes. On m'a dit que c'était bien. Pour moi, c'était génial. J'avais édité 1000 jeux. Donc aujourd'hui, je suis, grâce à mon distributeur belge, je suis donc en rupture de stock. Voilà, ça m'a permis de me concentrer sur la réédition pour faire de ce jeu un jeu collector qui est pour moi est le plus beau jeu que j'aurais créé, puisque c'est celui qui est à l'origine de tout. Voilà, on est toujours le leitmotiv d'ailleurs que j'ai peu expliqué dans l'idée du concept designer marginal, c'est voilà, d'avoir deux outils intellectuels, la pédagogie et la logique, et de faire en sorte que on puisse à chaque fois trouver une nouvelle façon de jouer, une nouvelle forme de jeu, un type de partie différent, ne pas être dans la redondance.
Okay. Parfait, merci Julien.
Merci infiniment, c'était ma première podcast radio, c'est très intimidant, mais la sympathie de Nicolas, podcasteur extrêmement sympathique et qui lui aussi m'a invité aux soirées terribles en Belgique, qui ont une excellente réputation et qui m'ont permis de me retrouver à découvrir Bruxelles et la famille ludique bruxelloise. C'était une soirée plus que terrible qui a terminé de façon... ça ne se raconte pas.
Non, il ne vaut mieux pas. Merci Julien, à bientôt.
Merci à tout le monde.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche Trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.